Bonjour à vous, Volker Türk.
Bonjour.
Merci enchanté. D'être avec nous sur RFI. La chute de Bachar el-Assad en Syrie, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ?
Mais c'est clair, si vous regardez comment la population est enthousiasmée, mais c'est vraiment une opportunité pour un changement profond dont la population syrienne a besoin, mais c'est aussi un élément d'angoisse parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors ce qui est la chose la plus importante, c'est d'avoir un processus inclusif qui permet à tous les Syriens, toutes les Syriennes, de participer, à envisager un futur qui est meilleur.
Le régime Assad, père et fils, a fait des milliers de victimes. 1,5 million de personnes tuées depuis 2011. Près de 100 000 portées disparues. Est-ce que, de votre avis, on risque de découvrir encore d'autres victimes maintenant que le régime est tombé ?
Alors, un des grands thèmes parmi les populations réfugiées, par exemple, mais aussi parmi la population qui est restée, c'est justement les personnes disparues. Et on a vu des scènes maintenant, quand les prisons ont été ouvertes.
Notamment la prison de Sennaya, oui.
Voilà, cette grande prison atroce. Et là, c'est clair que chaque famille presque en Syrie est affectée par des disparitions, par des personnes où ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Mmh. Et justement, on a aussi créé une institution au sein des Nations Unies pour répondre à ça, mais le gouvernement de l'ancien gouvernement n'a pas coopéré avec nous. J'espère que la nouvelle Syrie va coopérer avec cette institution parce que justement, ça va répondre aux attentes de la population.
Oui, la prison de Sennaya, les Syriens l'avaient surnommée l'abattoir humain. Est-ce que vos équipes, est-ce que votre bureau, à la faveur des vidéos qui nous parviennent depuis quelques jours, découvre encore des choses sur la réalité de cette prison.
Alors, c'est ce qui est très important maintenant, c'est de collectionner et de préserver les preuves et les documents. Nous, on n'était pas présents. Mon bureau...
Oui, techniquement, vous n'étiez pas sur place.
On n'était pas sur place. J'espère que, à nouveau, que ce gouvernement de transition va nous permettre de faire notre travail sur place avec toutes les autres commissions d'enquête parce que, justement, il faut faire ce travail pour rendre des comptes.
Oui, des collectes de preuves, d'abord. C'est une priorité.
Oui.
Pourquoi est-il essentiel, selon vous, de juger les crimes du passé ? Vous l'avez dit il y a 2 jours encore.
Oui, alors... Dans n'importe quel conflit, si on ne veut pas retomber dans le conflit, il faut adresser les questions de la justice, rendre des comptes, mais aussi d'une justice transitionnelle. Parce qu'on ne peut pas clôturer un épisode atroce ou précaire si on ne fait pas une sorte de réconciliation et de guérison avec le passé.
Oui,
ça c'est important.
Mais rendre des comptes dans le contexte actuel, dans le chaos que risque de connaître le pays, ça peut être extrêmement difficile, voire impossible.
Oui, ça c'est vrai, parce qu'il faut une réforme profonde du système judiciaire. Et ça c'est, je pense, une des grandes tâches de ce gouvernement de transition.
Des futures autorités. Est-ce qu'on pourrait imaginer ou inventer un tribunal spécial international pour les crimes syriens ?
Ça, vous savez, ça, c'est un peu trop tôt de dire ça, mais par exemple, la Syrie pourrait envisager d'accéder à la Cour pénale internationale, et parce qu'actuellement, la Cour pénale n'a pas de juridiction, mais il pourrait envisager ça, et vous avez quand même une institution qui pourrait être impliquée là-dedans.
Et ça vous semble une hypothèse crédible ?
Je ne sais pas.
C'est difficile
c'est
de
difficile
le dire aujourd'hui.
C'est à dire aujourd'hui, voilà.
Oui. Vous indiquez que votre bureau est prêt à soutenir le processus de transition. De quels moyens disposez-vous pour soutenir et pour aider les futures autorités ? On est encore beaucoup dans le flou hein, pour l'instant, ouais. Évidemment. Les événements sont très frais.
Oui, c'est très fluide et volatile, mais en même temps, on a accompagné d'autres situations de transition au Bangladesh, par exemple.
Oui.
Ce qu'on fait normalement, c'est justement, on essaie d'établir les faits, on va faire plus d'enquêtes. Et on va aussi essayer de soutenir une réforme profonde du système de l'État de droit. Ça, c'est certainement une des priorités. Et aussi participer à ce qu'il y a la société civile, les femmes, les jeunes, qui puissent participer dans cette dans la définition de l'avenir pour la Syrie.
Oui.
Je pense que nous, on est souvent un pont entre la société civile et les institutions étatiques. Et ça, c'est un rôle à jouer dans le futur.
Est-ce qu'à l'heure qu'il est, vous avez un quelconque contact d'une manière ou d'une autre? Les agences des Nations Unies ont un contact, quel qu'il soit, avec ce qu'on pourrait appeler les nouvelles autorités ou les rebelles qui ont pris le pouvoir?
Alors, les Nations Unies qui sont sur place, bien sûr, ils ont des contacts avec les autorités de transition. Et nous aussi, on va essayer d'établir des contacts justement pour qu'on puisse s'établir en Syrie.
Pour engager le dialogue et
soutenir la transition.
Volker Türk, je voudrais qu'on parle également d'Haïti et de ce massacre dans le quartier de Cité Soleil. C'était le week-end dernier, violence orchestrée par le chef d'un gang de la capitale. Il y a au moins, d'après vous, au moins 184 morts. D'autres estimations circulent avec des bilans beaucoup plus lourds. D'abord, qu'est-ce qui vous permet d'avancer ce chiffre de 184 morts?
Nous, on est sur place, on est en Haïti, et bien sûr, on a tout de suite fait une enquête. Mais si vous regardez cette année, on a déjà à peu près 5000 personnes qui étaient tuées par les gangs.
Oui, pour toute l'année 2024, depuis le début.
Voilà, pour toute cette année. En plus, il y a des atrocités qui sont commises contre les filles.
Des violences sexuelles qui se sont généralisées.
Qui, malheureusement, se sont généralisées.
Oui.
Moi, quand j'étais en Haïti l'année passée, j'ai rencontré des jeunes filles qui étaient violées. Et j'étais profondément choqué par ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir beaucoup plus d'attention de la part de la communauté internationale. Il faut respecter l'embargo des armes, parce qu'il n'y a aucune arme qui est produite en Haïti. Il faut aussi sanctionner ceux qui sont derrière les gangs, et c'est surtout des hommes politiques.
Vous parlez des armes et d'endiguer le flux d'armes vers Haïti. On sait que ces armes, elles circulent, elles arrivent principalement, essentiellement des États-Unis. C'est un trafic d'armes qui permet qu'elles arrivent. Comment est-ce que vous pouvez bloquer un trafic?
Alors, chaque arme, si j'ai bien compris, à des indications d'où ils sont produits. Alors, il faut investir dans l'enquête et de savoir exactement
la provenance de l'arme.
La provenance de l'arme, d'où est-ce qu'ils sortent, qui est derrière, et faire des mesures pour mettre en œuvre cet embargo tellement important.
On entend votre inquiétude pour Haïti, mais j'ai envie de vous dire, qui se soucie d'Haïti aujourd'hui? On a l'impression que c'est un pays qui s'effondre sous nos yeux, 12 millions d'habitants, et que la communauté internationale est bien silencieuse.
Alors, c'est une tragédie. Et il ne faut pas oublier que la révolution haïtienne fait partie de l'histoire des droits de l'homme, parce que c'était justement cette révolution haïtienne qui s'est déroulée il y a plus que 200 ans contre l'esclavage, contre le colonialisme, contre le racisme, et qui était extrêmement important pour les mouvements de droits humains. Alors oui, je me demande aussi pourquoi il n'y a plus d'attention de la part de la communauté internationale à l'égard de Haïti. Pour, par exemple, soutenir la police. La police actuellement n'a même pas les armes pour faire face aux gangs qui sont tellement bien armés. Et oui, il faut alerter chaque jour la communauté internationale qu'il y a une tragédie qui est en train de se dérouler en Haïti.
Vous sentez bien que cette alerte, ces appels sont peu entendus.
Oui, il y a au moins les Kenyans qui ont déjà envoyé...
Les Kenyans qui ont envoyé des policiers.
Des policiers
sur place,
il en faut plus. Et il faut aussi que, justement, que le Conseil de sécurité, qui a d'ailleurs pris une position là-dessus, c'est le Conseil de sécurité qui a imposé l'embargo et les sanctions, mais que ça devienne une réalité.
Oui. Volker Türk, en avril dernier, vous étiez en République démocratique du Congo. Vous ne cessez d'appeler, là aussi, à mettre fin à ce conflit dans l'Est avec ses conséquences innombrables. Est-ce que le haut commissaire que vous êtes, ou est-ce que plus largement les Nations Unies sont impuissantes face à cette guerre?
Alors, moi j'étais très frappé parce que ça fait plusieurs fois que j'étais en RDC, y inclus dans l'Est du pays, de rencontrer à nouveau des victimes et à nouveau des femmes qui étaient par exemple violées aussi dans ce contexte où il n'y a plus d'espoir. Et ça m'a frappé parce que c'est quand même une zone qui pourrait être une des plus riches au monde.
Hein. La zone est riche de ces minerais, ce qui fait son malheur d'ailleurs.
Alors, chaque portable que nous emporte probablement a des ingrédients qui viennent de là-bas. Hein. Il faut s'imaginer ça. C'est aussi lié à notre vie.
Et malgré le fait, notre consommation.
À notre consommation, c'est aussi lié au fait qu'il y a une absence de structures étatiques pour faire face à cela. Et il faut une vision régionale, mais aussi une vision de la part du gouvernement pour pouvoir... Et ça dépend aussi du secteur privé, par exemple, de trouver une solution à situation atroce.
Et oui, du secteur privé, vous parlez pour les portables notamment, hein, et pour toutes les conséquences que ça peut avoir.
Mais parce que c'est pas seulement.
Bien sûr.
Il y a les cobalt, il y a des minerais
oui.
Qui sont extrêmement importants, même pour la transition verte
énergétique. Oui.
Énergétique.
Oui.
Mais il faut avoir une gouvernance de la part du gouvernement, mais aussi un respect de la part de tous ces pouvoirs régionaux pour que cette partie du pays puisse se développer en paix, en sécurité et en dignité. Oui. Et ça, ce n'est pas le cas actuellement.
Volker Türk, vous ne cessez d'alerter sur la situation des droits humains partout dans le monde. Vous rencontrez beaucoup de souffrance et de désespoir. Vous nous en avez fait part lors de cet entretien. Mais vous dites trouver encore des lueurs d'espoir. Où sont-elles, Volker Türk, les lueurs d'espoir?
Alors, c'est vrai que quelquefois, on peut être assez désespéré avec l'état des droits humains dans le monde.
Mais oui, pris par le découragement.
Mais non, il faut... Tout d'abord, on a des standards. On a la Déclaration universelle des droits humains. C'est quelque chose qui était fabuleux. C'était aussi après des événements cataclysmiques. Les deux guerres mondiales, l'Holocauste, les atrocités, les inégalités et tout ça, la dépression économique. Et c'est quand même une aspiration qui inspire toujours les jeunes, qui inspire des mouvements sociaux, qui inspire aussi les personnes âgées. Je me rappelle, j'ai rencontré des femmes suisses retraitées qui sont allées à la Cour européenne aux droits de l'homme pour le changement climatique et pour dire que ce sont des questions des droits humains pour les générations futures. Mmh. Et ça me donne quand même l'espoir que c'est toujours une force qui motive, qui inspire, qui nous donne aussi un guide moral dans un monde très confus et qui peut nous aider à trouver des solutions à tout ce qu'on vit aujourd'hui.
Donc encore de l'énergie.
Ça a beaucoup d'énergie, il faut en faire plus.
Merci Volker Türk d'être venu sur RFI.
Merci beaucoup.
Et bonne journée.
Et bonne journée aussi.